Salut, je m'appelle Rosemie Autonne-Témorin, je suis rédactrice en chef du magazine Urbania. Pour une deuxième année, Urbania a réuni des gens qui créent l'extraordinaire dans différents domaines. Des gens à surveiller, identifiés grâce à un panel d'experts avec une rigueur qu'on estime digne de l'Académie Nobel. Les 5 nommés dans la catégorie culture et divertissement ont en commun une authenticité qui fait du bien. Ils n'ont pas peur de mettre les gens différents en lumière dans leur création et on les aime pour ça. Je vous les présente.
Là, je développe ma personnalité de pas fine.
Marie-André Labbé.
Il va falloir qu'on se tasse un peu.
Que j'ai découvert comme auteur pour la télévision avec la série Lourd, une série où la jeune femme moderne a le droit d'exister en tant que jeune femme, où on n'essaie pas de la dénaturer. Il y avait une vérité dans cette série qu'elle exprime encore mieux dans la série Trop qui est, selon moi, le hit du printemps.
Je porte une perruque, Marc-Antoine. C'est comme une loi non écrite, on fait pas de la peine à quelqu'un qui porte une perruque.
Simon Boulris.
Moi, je suis doué pour la joie. Je suis doué pour la création heureuse.
J'ai jamais vu quelqu'un produire autant de contenu et du contenu de qualité. Ce qui me surprend avec lui, c'est qu'il peut à la fois sortir un livre pour enfants puis un livre un peu vulgaire sur ses dates Grindr.
Congratulations, you have a new map.
Yeah, ma journée sera peut-être pas perdue.
Puis c'est toujours juste. J'ai ensuite découvert Emmanuel Schwartz dans un ovni qui s'appelle Laurency. Un film difficile à apprivoiser, un peu comme l'acteur. Il y a une prestance quasi effrayante, une intelligence vive et véritable. Honnêtement, c'est intimidant de s'asseoir en face d'Emmanuel Schwartz parce que son talent est infini.
Je sais pas pourquoi, je me suis toujours mis du côté de l'opprimé.
J'avoue avoir regardé la première saison de La Voix et j'avoue aussi avoir eu un kick immédiat sur Charlotte Cardin.
Quand j'ai fait La Voix, effectivement, c'est une plateforme qui rejoint tellement les gens qui sont dans le confort de leur lazy boy puis qui se permettent de critiquer, tu sais, tout ce qu'ils voient.
J'avoue surtout avoir été surprise par le son avec lequel elle est arrivée avec son premier mini-album, Big Boy. Je m'attendais à un truc formaté, mais elle est plutôt arrivée avec un son sexy et mature différent. C'est un extraordinaire de 2016 qui m'a écrit pour me dire que je devais absolument découvrir Kate Shenktom. Elle est auteure, essayiste et poétesse. Elle est partiellement installée à Toronto où elle vit. Elle vit aussi à Montréal à temps partiel pour des études en travail social. Puis quand je l'ai découvert, je suis tombée intellectuellement amoureuse de cette femme-là qui se bat pour donner une voix à la communauté trans.
Because it's acceptable to be angry when we live in unacceptable conditions.
Elle est avec nous par téléphone, puis je vous préviens, elle nous répond principalement en anglais, mais son travail est tellement important que ça nous dérangeait pas. Puis, tu sais, au Québec, on a aussi des anglophones et le spécial extraordinaire s'intéresse à tous les Québécois. Donc, finalement, on les a tous réunis pour une discussion sur la création où on a eu autant de grands fous rires que de questionnements existentiels. Et dans ce premier épisode, on discute de ce qui les motive à créer, puis on se demande si ça existe encore, des gens ordinaires.
Solide tablé. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous avoir réunis et j'aimerais commencer en soulignant que votre travail à tout un chacun fait une différence dans le milieu culturel. Et je suis donc curieuse de savoir ce qu'il propulse. Quelles sont les valeurs qui motivent vos créations? Alors Simon, commençons avec toi.
Moi, je m'adresse de plus en plus aux enfants, de plus en plus aux adolescents. Et j'ai pas envie de me sentir que j'ai une responsabilité, quoique je sais que j'en ai une en m'adressant à eux. Moi, je suis doué pour la joie. Je suis doué pour la création heureuse. Et je sens que c'est pas tout le monde qui l'a, ça. J'ai beaucoup d'amis qui se torturent, qui sont dans... et se flagellent quand ils sont en pleine création. Et moi, c'est vraiment... Je crie vraiment dans la joie, dans le plaisir. Est-ce que c'est ton cas, toi, Manu?
Ben, je pense que oui.
Voyons, c'est juste un peu ton antithèse. On a travaillé ensemble, puis autant qu'on s'aime, puis on a vraiment une façon de travailler qui est très, très différente.
Est-ce que ça cause des frictions?
Des frictions énergétiques, positives.
Oui, c'est ça. Pour moi, c'est positif de ne pas être dans la même traque que l'autre. Mais je te dirais que quand je m'adresse aux enfants, ce que je fais de plus en plus, puis pour les adolescents, j'ai tellement eu une enfance qui était... Je carburais énormément à la lourdeur. Mm-hmm. Et je l'apporte toujours, ça. Je suis quand même foncièrement un garçon triste, mais qui est mu par une espèce de joie nouvelle qui me porte beaucoup. Et donc, quand je m'adresse à des enfants, j'essaie d'aller dans des sujets qui me préoccupent, qui m'ont obsédé enfant. Je parle entre autres d'énurésie, les enfants qui font pipi au lit, de mon parentalité, de thématiques qui me sont chères, qui peuvent être parfois un peu pointues ou un peu... Mais je le fais avec une espèce, avec une lumière là-dedans, avec beaucoup d'humour. J'ai parlé dans L'Enfant Mascara d'un enfant trans qui a été assassiné en 2008 aux États-Unis. Je me suis mis dans sa peau. Je suis allée à Oxnard, où le crime a eu lieu, à l'école secondaire. On me dit beaucoup, oui, c'est très troublant comme livre, mais il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de légèreté dans ce roman-là parce que je suis traversée aussi par ça. Donc, je te dirais que... Mes valeurs, ben, c'est un peu juste être le plus intègre possible et faire un constat de la vie. Pour moi, je dis toujours que la vie, elle est complexe. J'aime me dire que je me dois de tresser le drame et l'humour constamment parce que la vie, c'est ça. Puis parfois, dans la même minute ou dans le même... Moi, ce que j'aime de la vie, c'est les glissements. On passe de la joie aux larmes, puis je réponds trop, là, mais en fait, je dirais que c'est ça. Pour moi, c'est un peu tisser ces choses-là qui m'habitent.
Emmanuel Schwartz, donc le bonheur, vous, dans la création, c'est une des valeurs qui vous motive?
Pas vraiment, non. faut dire que c'est un bonheur de créer. C'est pour ça que je fais ça, puis je pourrais pas faire autre chose. C'est peut-être une des seules ou une des grandes joies que j'ai dans ma vie. Sinon, moi, je suis plutôt à l'inverse.
Dans
de
la douleur.
Je me sens toujours un petit peu opprimé. Je me sens toujours oppressé, marginalisé, malgré que je sois pas mal le moins marginalisable des Américains ici. Je suis hétéro, athée,
blanc,
d'âge moyen, de taille moyenne.
T'es assez grand.
Oui, un peu plus grand que la moyenne.
Un peu trop grand. Mais je sais pas pourquoi, je me suis toujours mis du côté de l'opprimé. Je me suis toujours senti comme ça, et c'est peut-être une hypersensibilité qui fait ça, mais je me sens toujours rallié à l'underdog, plutôt du côté du challenger et de celui qui fait face à l'échec. Puis je pense que ça a à voir avec quelque chose de social que j'ai vécu, une sorte de marginalisation. Quand j'étais petit, je pense que j'étais pas décidé tout à fait à savoir si j'allais avoir un caractère masculin ou féminin. Voilà, j'ai toujours été très, très ouvert, très attaché aux mots, attaché à la musique. Je me suis jamais, je pense, considéré dans les rangs. Ce qui a fait en sorte que ma création se dirige vers la marginalisation tout le temps, le prendre parole pour ceux qui ne peuvent pas le faire, dire des choses qu'on ne dit pas, voilà, peut-être redonner valeur intérieure à quelqu'un qui l'a perdu ou qui a le sentiment de la chercher, puisque c'est ce que je fais moi-même en créant. J'ai l'impression
d'offrir une tribune à ceux qui n'en ont pas, il y a un peu de ça.
Absolument.
Je te rejoins complètement là-dedans.
Kate Langton, j'imagine que c'est un discours qui vous rejoint aussi.
I would like to say that le bonheur, happiness, is something that motivates my work, but I have to say that it has been more more the effect of trauma and maybe a bit like Emmanuel, like marginalization and being silenced that motivates my work to speak, like the work I do, I consider storytelling or listening to stories. I would say that the expression of pain, the expression of sadness, the expression of grief, the expression of mourning that comes from living in a world that brings us to mourn, like in a world where we are constantly surrounded by violence and by marginalization, by the profit of the few at the expense of the many, is an example of human flourishing that kind of falls outside the range of like happiness or joy. I think about what it means to flourish, about what it means to grow, what it means to heal from trauma and from violence. And I think that, honestly, one of the most important parts of that is the expression of anger, because we are allowed to be angry, because it's acceptable to be angry when we live in unacceptable conditions.
Mais ce n'est pas la colère n'est pas valorisée, je crois, dans notre culture, par contre.
No, it's not. And I mean, I think it's a difficult question. I think it's hard to live in the ambiguity. But certainly when we see that children, for example, are socialized not to speak about anger, not to express injustice when it's occurred to them, I think that is a real injustice that we do to children in preventing them from expressing themselves.
Donc vous donnez une voix un peu à cette colère dans vos productions.
I like to think so.
Charlotte Cardin, qu'est-ce qui motive votre travail?
Je me sens vraiment privilégiée dans la position dans laquelle je suis. Je me suis jamais sentie particulièrement marginalisée ou opprimée. Mais en même temps, j'ai moi aussi un petit peu de colère que j'ai le goût d'exprimer. Puis dans la vie, j'ai comme pas tendance à nécessairement l'exprimer si ce n'est pas à travers mon art. Donc, les gens qui me connaissent personnellement sûrement trouvent que je suis assez, bon, assez relaxe. Puis je me retrouve tout le temps confrontée à justement exprimer des choses quand même lourdes dans mes textes puis des émotions que j'aurais pas nécessairement l'habitude d'extérioriser autrement. J'aime ça justement parler de choses qui m'habitent puis qui me dérangent puis que je sais pas exprimer autrement. En fait, c'est même pas une décision volontaire. Là. C'est plus comme j'ai pas le choix de l'exprimer dans ma musique parce que sinon je l'exprimerais pas puis je deviendrais super dark. Mais c'est ça. J'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à mon album. Bon, et les gens ont l'impression que j'ai vécu des relations amoureuses super déprimantes, super dark. Puis en vérité, c'est juste parce que vraiment, quand j'écris, ben j'écris sur les choses qui viennent me chercher plus que sur les choses qui m'édifient puis qui me rendent heureuse. Là. Fait que c'est plus ça.
Marie-Andrée Labbé, mis à part les gens différents, qu'est-ce qui vous motive?
Ouais, ben c'est dur. J'écoute les réponses, puis je me situe au milieu de tout ça, là, ouais. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est, y a pas de motivation à mon travail, dans le sens où c'est la seule vie que je connais, puis c'est la seule façon de fonctionner que je connais. J'ai pas de différence entre moi maintenant puis la petite de 4 ans. J'ai comme conservé cette façon-là de vivre avec dans la vraie vie et avec la vie de l'imaginaire à côté, qui est parallèle, où je peux passer de l'un à l'autre pour me sauver ou pour me sortir du trouble, ou parce que le concret me convient pas. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas réussi à vivre de ça, parce que c'est vraiment la seule chose que je peux faire. Je peux pas vivre autrement. Moi, la majorité du temps, je suis toute seule chez nous devant mon ordi, avec des gens que j'ai inventés moi-même, que je fais jouer comme je veux. Puis c'est une façon de contrôler. C'est ma façon de contrôler mes affaires, probablement. Puis nécessairement, bien, je m'inspire de ce que je vis ou de ce que les autres vivent ou de ce qui me touche. Mais tu parlais des gens différents. C'est comme ça que les gens le reçoivent. Moi, de l'intérieur, c'est pas un choix. C'est juste, ça va de soi. Les gens ordinaires ne m'intéressent pas. Donc, je serais très malheureuse. En fait, si j'étais ordinaire, je serais très malheureuse. Fait que j'essaie de me tenir loin le plus possible des gens les plus ordinaires parce que je comprends pas les gens qui font les choses parce que les autres les ont faites avant et parce que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Puis c'est donc, je comprends pas cette façon-là de vivre. Donc, c'est sûr que mon intérêt va se poser sur les gens qui font des choses extraordinaires ou bizarres ou qui vont trouver leur façon à eux de fonctionner dans le monde puis de pas virer fou. Mm-hmm. C'est ces gens-là qui m'intéressent. Donc, c'est ces gens-là que je vais mettre en lumière. Puis ça donne qu'ils sont peut-être moins mis en lumière parfois, je veux dire, si je regarde.
Mais assurément, avec trop, vous abordez la santé mentale, mais ces gens-là sont rarement mis en lumière dans des créations artistiques au Québec, en tout cas à la télévision.
En fait, peut-être la façon dont moi je la traite, peut-être effectivement que c'est pas vu souvent, mais tu sais, des fois je dis, je regarde ce qui se fait à la télé, mon personnage de bipolaire est moins bipolaire que les gens normaux dans les autres séries.
C'est que
des fois, tu fais, mais voyons, il y a personne qui se crie par la tête de même sans se faire interner. Je dis, des fois, tu regardes. fait que moi, j'ai pris le pari de ramener ça le plus possible près de la réalité. Ça donne, je pense, quelque chose où là, on comprend que les gens autour sont mal à l'aise et moi, je vais tirer mon humour de ça, de ouf, comment on va gérer ça, cette situation-là. C'est pas dans l'extravagance.
Mm-hmm. Quand je me suis penchée sur votre travail pour le magazine, pour moi, c'était évident que vous aviez tous un attrait vers la marge, que vous arriviez à exposer une authenticité qui est parfois rare et qui doit parfois probablement être difficile à assumer. Par exemple, Simon Boulris, à Plus on est de fous, plus on lit, vous avez récemment parlé des complexe développé par rapport à votre voix et à l'importance de finalement embrasser ce qui fait
absolument,
notre différence.
Bien sûr. Petite anecdote qui, pour moi, n'est pas du tout banale. Moi, j'ai toujours aimé chanter. Quand j'étais jeune, je voulais chanter. C'était le métier qui m'intéressait dans la vie. Et un jour, j'ai convié ma sœur à venir m'écouter chanter dans ma chambre sur tout le répertoire de Whitney Houston. Et j'ai demandé, donc j'ai fait mon récital, j'ai dit, Vicky, est-ce que tu crois que je devrais contacter Whitney Houston pour réenregistrer l'album avec ma voix par-dessus celle à Whitney? Et ma sœur, qui était très diplomate, m'a dit, écoute, c'est beau avec ta voix, mais c'est certainement pas nécessaire. Et ça a été, pour vrai, un grand chagrin parce que j'ai mué, ce qui pour moi a été un vrai chagrin dans une vie. Puis c'est pas un petit... c'est pas banal, ça, la muance quand t'es un garçon qui veut... J'avais une voix de soprano là, que je chantais à l'église en solo. Puis quand j'ai mué, j'ai vraiment pris ça comme une trahison divine parce que je chantais à la chorale à l'église. Et ça a été très dur de m'en remettre. Sincèrement, ça a été un grand drame dans ma vie. Et chaque fois que je chantais, on me disait tout le temps « Tais-toi, tu chantes pas, c'est pas beau. » Puis quand je rentrais à l'école de théâtre, ben là, on me disait tout le temps, mon Dieu, ta voix, il y a du mucus là-dedans. Je dis, ben oui, il y a bien du mucus. Puis là, chaque fois que je chantais, on me disait, ben non, c'est pas beau. Et j'ai fini par faire de la radio. C'est très étonnant parce que j'étais vraiment voué. Moi, j'étais plus un acteur physique. J'ai fait de la danse, ballet classique. Et là, quand je suis sorti de l'école, ben un jour, j'ai été invité à Plus on est fou, plus on lit pour parler d'un de mes derniers livres. Et Marie-Louise Arsenault m'a apprécié. Elle m'a offert une tribune. Elle m'a vraiment offert une chronique. Et Jean Cocteau a dit une phrase que j'ai bénie parce que ça m'a aidé dans ma formation à l'école de théâtre. « Ce que le public te reproche, cultive-le, c'est toi. » Et cette voix de marde-là que j'ai, je l'utilise. Je trouve qu'il y a un côté sympathique dans cette voix-là. T'sais, je dis qu'elle est entre deux chaises, le cul entre deux chaises, entre rhume et joie. Puis je, quand je me réentends, je peux me réentendre et je suis en paix avec ça. Donc, je me sens décalée à plusieurs niveaux dans la vie. Puis j'utilise beaucoup ça, ce sentiment-là d'être... peut-être pas nécessairement marginal, mais juste décalé, juste un petit peu légèrement dans la marge. Mmh. Ça me plaît beaucoup. Puis juste un autre exemple, j'avais une obsession par rapport à la course navette, la course bip-bip dans le gymnase. Et,
oui, alors il y a des sons de sifflet, c'est ça, c'est des paliers, voilà. Et, avant le sifflet.
Et je vois ça comme une métaphore beaucoup de l'adolescence où il y a le troupeau devant, puis moi j'étais toujours derrière, j'essayais de rentrer dans le troupeau, puis j'étais toujours vraiment, j'étais pas dans le peloton. Et c'est fou comment ce sentiment-là, il est partagé. Tu sais, on disait, oui, mais les gens ordinaires, je pense que même les gens ordinaires ne se sentent jamais ordinaires. Mm-hmm. Je crois que même ceux qui sont devant ont le sentiment d'être décalés. Je pense que c'est ce qu'unit l'homme, c'est le sentiment de ne pas rentrer dans la vie. Moi, je me sens incapable de rentrer, de fonctionner. Puis je sens qu'on est tous un peu comme ça. Mm-hmm. C'est ce qui fait que ma plus grande passion, c'est regarder sur YouTube des mannequins qui glissent. Parce qu'un mannequin qui perd pied, pour moi, il y a toute l'humanité du monde qui se révèle parce qu'on est dans une posture de dignité. Tu glisses et tu fais comme si de rien n'était. Et moi, ce que le mannequin vit à ce moment-là, là, je trouve que, oui, en partie, il y a peut-être une portion de nous qui a envie de rire de ça, mais c'est surtout parce qu'on se reconnaît. Mais c'est qu'on se... Moi, je me reconnais. Je me reconnais tellement dans la chute. Puis c'est ça qui nous unit, finalement. Donc, la personne qui plante, c'est cette personne-là que j'ai envie d'élever, de donner la parole.
Hmm. Kate Langton, en tant que travailleuse sociale, vous êtes l'une des cofondatrices de la Monster Academy, un organisme qui offre des ateliers aux jeunes Montréalais pour favoriser la santé mentale. Je me demandais, selon vous, quel apport peut avoir la culture et le divertissement chez ces personnes qui sont marginalisées, qui ne se sentent pas ordinaires?
This is a great question. I think... Well, the most difficult question, I think, in la divertissement, in media, in general, for people who are marginalized, is a lack of reflection, the lack of reflection of ourselves. And I think the most joyous, incredible thing that can happen as a marginalized person, as a trans person, or a queer person, or a racialized person, is to see someone who fully embodies the weight of emotion and invisibility that being marginal carries in our society today. Mm-hmm. So I remember being a child, 6 years old, growing up in Vancouver, and I really, really wanted to see an example of a woman who was strong and powerful and could kick ass, and who, you know, could also be... who I could see as kind of being trans. You know, there were not really very many trans role models on television at the time. There still aren't many. But there was Xena Warrior Princess. I don't know if people know Xena.
Oh, yeah.
But she was this, you know, 6 foot tall, incredible woman on mainstream television. And for such a long time, this is the only kind of representation I saw of a powerful woman on television. I mean, I think entertainment, I think divertissement for marginalized people plays a role in humanizing us, in allowing us to exit the space of being marginal and enter the space of being real. I have a wonderful friend who is indigenous, Gwen Benaway, who's a trans woman, who writes about trans women being like a vampire, and vampires in mythology have always been said, you know, not to be able to see their reflections in the mirror. And this is a terrible thing for mental health, right? For the health of the soul, to not be able to see oneself as real, because that means one doesn't see oneself as having a future, as being lovable. I know so many trans women who can't imagine themselves being in healthy relationships because we just don't see that very often reflected in mainstream or in marginal media. Unfortunately, more and more is coming out now for marginalized people in Quebec and in English Canada. But I still, we still have a long ways to go. So all that said, you know, I think one of the most powerful things that we can experience as marginalized people is knowing, of course, that we are not alone. And that is what representation does for us.
C'est inspirant. Ça donne envie de créer de nouveaux personnages. Emmanuel Schwartz, vous portez 1000 chapeaux, puis la marginalité est l'un des critères importants dans la sélection de vos projets.
Absolument. Moi aussi, on dirait, plus je regarde aujourd'hui, plus je cherche, je ne les trouve plus, ces gens ordinaires-là. On dirait les gens ordinaires qui nous avaient été dessinés presque dans un décor des années 50 ou 60. Ce mainstream-là, je les trouve jamais. On est toujours dans une forme de marginalité pour quelqu'un. On est toujours l'étrange de l'autre. Et on est tous multiples, surtout. C'est... Fait que moi, je revendique ça, puis je le fais par mon métier, finalement. C'est une grande chance de pouvoir le faire.
Mais je suis d'accord, mais il reste que... Nous, je pense que quand même, on évolue dans un milieu où, oui, les choses se disent plus, on est entouré de gens qui nous ressemblent, donc nécessairement dans notre cercle. Par contre, je viens du Bas-Saguenay. Moi, j'ai été dans Charlevoix, puis j'ai grandi au Saguenay, puis dès que j'y vais, ça prend une demi-différence pour que tout le monde te regarde. Et puis, moi, je suis lesbienne, moi puis ma blonde, on va déjeuner le matin dans un restaurant, puis ça jacasse encore.
C'est vrai?
Ben oui, puis nous, ça nous fait rire. Nous, on s'amuse de ça, puis ma mère, elle vient nous présenter aux tables, puis elle fait des malaises, puis c'est pour qu'on en rit. Mais c'est des niaiseries, mais il reste que c'est beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec la moindre chose qui dépasse. Puis il y a beaucoup de gens dans ces villages-là qui ne sauront jamais qu'ils ont le droit d'être qui ils veulent, puis ça ne se rendra jamais à eux, fait que... En bout de ligne, là, c'est pas vrai que tout le monde est prêt à accepter tout ce qu'on propose. Moi, en tout cas, je le vois parce que c'est des grosses machines. La télé, qu'est-ce que tu veux, c'est 75 personnes sur un plateau un bon matin. Ça coûte cher, puis ça, puis c'est important qu'on se trompe pas, puis que ça soit pas un flop. Là, tu te dis, ben là, faudrait peut-être que je fasse un effort pour impliquer monsieur, madame, tout le monde dans mon histoire. Puis tu sais, c'est...
Demeurer authentique dans ces conditions-là, c'est un défi.
Ben oui, ouais. C'est un défi.
Ce que je retiens de ce premier échange, c'est le fait que ces créateurs-là sont appelés par la marginalité, mais malgré eux. Ils n'ont pas fait le choix de la différence en se disant que ce serait éventuellement payant. Ils ont simplement réussi à assumer leurs doutes, leurs colères, leurs étranges fascinations, puis à transformer tout ça en un art authentique qui sait nous interpeller.
Quand je mets pas d'émoticônes, je me sens sec.
Dans le prochain épisode, on va se demander si, comme artiste, on peut faire sa promotion sur les réseaux sociaux tout en étant authentique.
Hey boy!